allons poursuivre donc sur les classiques de la fantaisie britannique. Vous en avez parlé à la fin de votre intervention. Nous allons poursuivre donc avec Marie-Hélène Routisseau, qui est à côté de moi, et qui enseigne la littérature de jeunesse à l'Université du Maine. Marie-Hélène Routisseau est docteur en littérature comparée. Je suis ravie de vous accueillir, je vous remercie d'être venue. Vous êtes l'auteur d'une thèse aussi, qui est consacrée donc aux influences de Lewis Carroll dans la littérature française, et qui est publiée à l'Harmattan, qui a été publiée en 2006. Et je signale un de vos ouvrages publié en 2008 chez Belin, qui s'appelle « Des romans pour la jeunesse, décryptage », dans lequel vous analysez les raisons du succès de la fantaisie et les causes possibles de l'attirance du lectorat pour les mondes imaginaires en général. Alors on va vous écouter un peu plus avant. Je vous renvoie pour la bibliographie et toutes les références aux documents qu'on vous a remis, dans lesquels vous trouverez tous les très nombreux articles de Marie-Hélène Routisseau, qui s'intéressent, dont les sujets d'études sont l'imaginaire en fait littéraire des œuvres destinées à la jeunesse. Et puis, vous travaillez aussi sur les applications théoriques de la psychanalyse dans la littérature de jeunesse. Donc, vous aurez aussi bien les références fantasy que les références sur la littérature de jeunesse et vos domaines de compétences. Je vais vous laisser la parole.
Oui, bon, le titre de cette communication, les classiques de la fantaisie anglo-saxonne, quelles influences dans les œuvres de fantaisie contemporaine, je voudrais quand même la préciser parce que je vais m'intéresser exclusivement à un corpus de romans qui sont des romans britanniques, donc laissant de côté la production américaine. Et je m'arrêterai sur quelques œuvres emblématiques écrites donc par des Britanniques en essayant de voir comment, quelles influences, quels effets, quel impact elles ont eu sur d'autres œuvres de la production contemporaine et quels effets elles peuvent produire sur le lecteur. Donc, mon point de vue est double, finalement. Alors, à la différence de Jacques Boudou, j'ai exclu, puisque je ne parle ici que de romans pour la jeunesse, se trouvent exclus les romans qui sont fantastiques, c'est-à-dire qui produisent de l'angoisse chez le lecteur. Donc, vous voyez que ma perspective sera un tout petit peu différente de celle de Jacques Boudou. Je voudrais aussi préciser comment j'ai orienté mon intervention. Je pense qu'il est quand même important de se pencher sur le sens du terme fantasy, qui est donc un terme anglais qui n'a pas le même sens en français. Fantasy n'a pas exactement le même sens en français qu'en anglais. Je voudrais quand même vous rappeler que le premier sens de ce terme provient d'un terme grec qui est fantasia et qui signifie apparition, image fugace, vision. Et moi, j'admettrais que la fantasy est un genre romanesque qui privilégie, a priori, ce type d'apparition et qu'elle entretient, de ce point de vue, un lien étroit avec le fantasme. Et j'entends par fantasme la représentation imaginaire qui est produite donc par la faculté imaginative, c'est-à-dire par l'imagination. Donc moi, je relis quand même très très explicitement ce terme à de l'imaginaire. Et j'ajouterais que l'anglais, à la différence du français, définit le terme « fantasy » comme justement de l'imaginaire, par opposition au réel. Ça me semble être quand même un aspect, un point assez important. Le second sens que je donnerai au terme relève du romanesque, puisque moi je parle aujourd'hui de roman, c'est-à-dire d'un genre tout à fait particulier. Or, je pense que contrairement à d'autres genres romanesques, la fantasy opte pour l'émergence ou bien thématique ou bien axiologique, c'est-à-dire qu'elle privilégie certains types de valeurs, si ce n'est certains types de structures narratives, qu'elle privilégiait donc l'irruption de l'imaginaire dans la fiction. Hein, ça, c'est je dirais, le second aspect qui me semble extrêmement important. Donc, la fantasy met quand même en représentation dans les récits, d'une part, la conquête du réel par l'imaginaire, enfantin ou adolescent, que c'est en cela, pour citer Freud, dans ses mots d'esprit, dans le mot d'esprit, dans ses rapports à l'inconscient, qu'on peut l'analyser comme une revanche que prend l'enfant ou le jeune, une revanche sur le réel, c'est-à-dire que c'est un moyen finalement de remettre en cause le rationalisme adulte. Hein. Donc c'est, je dirais, peut-être un aspect qui, ou en tout cas une piste qui peut nous permettre de comprendre l'attrait des jeunes lecteurs pour ce type d'imaginaire. Hein. Alors, effectivement, c'est aussi un genre qui se caractérise par des interactions entre justement le champ du réel et celui de l'imaginaire. Interactions qui peuvent être modélisées, comme vous le savez, par le motif du passage dans un ou plusieurs mondes, passage qui s'opère soit par la traversée d'un mur, je pense à Harry Potter, la traversée du miroir, je pense à Alice, la chute dans un terrier de lapin, etc. Hein ? La fantaisie a donc besoin de s'adosser à du réel pour y introduire de l'imaginaire. Mais pour autant, ce qu'elle propose ne relève pas uniquement de la construction de mondes possibles ou virtuels. Elle vise, hein, comme je le disais tout à l'heure, d'où l'intérêt d'une définition, elle vise aussi à susciter une vision, finalement, hein, qui soit une vision donc imaginaire, qui soit aussi convaincante que possible, pour que le lecteur puisse y croire. Et pour que cette vision soit convaincante, elle opère par une espèce de, comment dirais-je, vacillement du réel, et ce vacillement qui est produit dans la réalité, eh bien, suscite quelque chose comme un enchantement, un envoûtement sur le lecteur. Hein, c'est cette espèce, si vous voulez, de passage qui fait qu'on se trouve envoûté par la fantaisie. Bon, je préciserai aussi que la fantaisie ne sollicite pas l'adhésion totale du lecteur, parce qu'elle cherche à rendre l'apparition d'autant plus convaincante que le lecteur sait qu'elle est improbable. Ça me paraît aussi important. D'où la possibilité d'entrer dans ces mondes. C'est une espèce de paradoxe qui est important. Elle offre, alors je cite ici Jean-Michel Schaeffer, hein, qui a travaillé sur le romanesque, elle offre en cela un contre-modèle de la réalité. C'est le cas de la fantasy qui propose une vision satirique du monde, par exemple, si ce n'est un modèle contre la réalité, quand elle célèbre justement la puissance de l'imaginaire contre le réel. Cet aspect de la fantaisie, hein, cette espèce de va-et-vient justement entre l'imaginaire et le réel, s'appuie donc sur ce qu'est intrinsèquement le romanesque, c'est-à-dire qu'on a besoin du romanesque pour que ça puisse avoir lieu, pour y introduire des éléments de merveilleux et d'enchantement dans le réel. Elle invite donc le lecteur à se laisser envoûter en proposant un récit capable de produire ce que Tolkien nomme « literary belief », c'est-à-dire une croyance littéraire, et que Coleridge avait donc défini comme « willing suspension of disbelief », hein, une suspension volontaire de l'incrédulité. Ce qui signifie que nous avons d'emblée affaire à des romans qui sollicitent de la part du lecteur, hein, une forme d'adhésion naïve et crédule. Hein. L'autre aspect qui m'intéresse relève davantage de l'invention des mondes. C'est-à-dire que la narration fait entendre la voix d'un conteur qui se conçoit et qui parle comme, dit Tolkien, un subcréateur, hein, un créateur de monde secondaire. Ce qui importe ici n'est pas le jeu entre le réel et l'imaginaire, mais le fait que le narrateur, le fait que ce que le narrateur raconte est vrai et que ce vrai soit en accord avec les lois du monde qu'il invente. Hein. C'est donc, si vous voulez, un autre aspect de la fantasy qu'il faut prendre en compte. Et nous allons le voir tout à l'heure, cette capacité de l'écrivain à créer des mondes pose en fait plus profondément la question donc de la recherche de l'effet produit sur le lecteur par la narration, parce que au-delà de la posture naïve, hein, et au-delà du plaisir suscité par l'évasion dans ces mondes imaginaires, la fantasy déploie la puissance de l'imaginaire en interrogeant aussi, et c'est tout à fait, je dirais, singulier et original, les mécanismes propres de la création fictionnelle dans le roman. Hein. Donc là, si vous voulez, on a des mises en abîme vertigineuses qui sont aussi des réflexions sur ce qu'est la fiction. Et la fantasy permet finalement d'aborder aussi ce type de questions. Voilà, donc c'est à partir, mon introduction est un petit peu longue, hein, mais c'est à partir, si vous voulez, de tels postulats que je vais aborder maintenant les œuvres dites classiques de la fantasy britannique, c'est-à-dire donc des œuvres qui ont posé vraiment les fondements et structurels et thématiques du genre. Alors, ce sont des œuvres qui remontent à la seconde moitié du XIXe siècle en Grande-Bretagne, c'est-à-dire une période de l'histoire littéraire qui réhabilite le conte de fées en privilégiant le surnaturel et les mondes enchantés. George MacDonald et Charles Kingsley sont parmi les premiers à écrire de telles histoires. George MacDonald, c'est un poète, un romancier, un auteur pour la jeunesse. Son conte le plus connu est peut-être La princesse et le gobelin, mais c'est aussi un ami de Lewis Carroll. Et non seulement il influencera Lewis Carroll, mais il sera aussi considéré comme le maître de la fantasy dans un cercle d'écrivains qui se trouvera à Oxford, et cercle d'écrivains au premier rang desquels figurera C.S. Lewis, l'auteur des Chroniques de Narnia, qui le considère comme l'un de ses maîtres. Alors, George MacDonald, il naît en 1824 et il meurt en 1905, hein, alors que quand C.S. Lewis publie, il publie ses Chroniques de Narnia dans les années 50, hein, ça, donc 50 ans, plus de 50 ans les séparent. Donc avant Carroll, George MacDonald va appréhender le motif de la traversée du miroir dans une optique qui est une optique purement romantique, qui associe la tristesse de l'âme à la notion de passage. Alors j'ai donc derrière moi un de ses ouvrages dont le titre est Lilith. C'est un ouvrage qui a été publié en 1858. Le miroir y est franchi comme une porte, hein, le miroir qu'on voit sur cette couverture. Il s'ouvre sur un monde autre, un paysage de collines, de lointaines montagnes et de landes chargées d'une indicible tristesse, où se trouve aussi, donc apparaît une espèce de personnage féminin, féerique, spectral, inaccessible. Dans une autre de ses œuvres, qui s'appelle, dont le titre est Fantaste, un roman féerique, l'enchantement provient aussi bien de la rencontre du héros avec une dame séduisante, telle qu'elle apparaît dans Lilith, spectrale également, et tout aussi inaccessible, que de la description d'une nature envoûtante et poétique. Et ça, ça me semble aussi, enfin, ça me semble, si vous voulez, important de souligner cette dimension, c'est-à-dire que le féerique, l'envoûtement provient d'une nature qui est à mains égards magique et passablement poétique. Je vous en donne un exemple. C'est un extrait de Fantaste. Elle referma ses bras autour de moi et continua à chanter. La pluie dans les feuilles et un vent léger qui s'était levé tenaient compagnie à sa chanson. J'étais envahie par une extase, une joie sereine. La chanson me disait le secret des bois et des fleurs et des oiseaux. À un moment, j'eus l'impression que c'était comme si je me promenais en enfance à travers des forêts printanières dans le soleil, sur des tapis de primes vertes, d'anémones et de petites choses blanches qui ressemblaient à des étoiles. On voit ici combien la question de la vision extatique est importante, puisque c'est en partie sur elle que repose cet enchantement, c'est-à-dire donc à travers aussi la célébration d'une nature merveilleuse. Alors, le second auteur important, c'est Charles Kingsley, qui vit à peu près à la même époque, c'est-à-dire dans le courant du 19e siècle, et qui va publier un conte de fées qui s'intitule « The Water Babies », « Les bébés d'eau », en 1863. Donc, je change d'image. Vous pouvez peut-être le faire.
Oui, dites-moi.
Si on peut déjà... Je vais vous montrer donc c'est Water Baby, c'est le dernier, c'est par ordre alphabétique. Ça vous ennuie pas?
Non, non,
c'est le dernier.
Ah, pardon. Non, pas... J'ai pas mes lunettes.
Ah oui, non,
ça devrait aller.
Donc, dans Les bébés d'eau, il raconte les aventures d'un petit ramoneur, Tom, qui, après sa noyade, découvre un univers aquatique magique. Qui sera finalement pour lui rédempteur. L'enchantement provient ici de la présence de personnages féeriques, comme ce personnage féminin de fée que vous voyez sur l'image. Mais il procède aussi, comme chez George MacDonald, de la description détaillée d'une nature envoûtante qui propose une vision animiste du monde, conférant aux torrents, aux fleurs, aux bêtes, une âme. Alors il faut aussi souligner que apparaît ici le motif du passage dans un monde autre à travers donc par la traversée donc d'une frontière d'eau puisque c'est en tombant dans la rivière que Tom découvre ce monde aquatique. C'est un motif qui était déjà présent dans la littérature médiévale et ce motif sera repris par Clive Staple Lewis puisque le passage dans le monde de Narnia s'effectue par l'intermédiaire d'une mare d'eau dans le premier tome dans le premier roman des Chroniques de Narnia, donc le neveu du magicien, qui est un roman publié en 1955. Je ne sais pas si vous l'avez trouvé.
Premier volume chronologique.
Oui, chronologique. Oui.
Parce que c'est pas le premier.
Non. Voilà, donc les mares d'eau et le lion Aslan au premier plan. Alors, il est évident que après ces deux auteurs, la perspective adoptée par Lewis Carroll, qui est un auteur de la même période, du courant du 19e siècle, est tout à fait singulière et tout à fait différente. Parce que même si Carroll emprunte, nouvelle image, emprunte à George MacDonald sa traversée du miroir, vous allez. Voilà, Alice Looking Glass, c'est le premier document. Autre donc traversée. Il se distingue nettement de ses prédécesseurs dans la mesure où il subvertit complètement le conte de fées par le non-sens, par l'absurde. Donc dans les deux aventures d'Alice, au Pays des Merveilles, publiées en 1865, et la traversée du miroir, publiée en 1872, Il opte aussi, c'est une rupture importante, pour la mise en représentation d'une autre logique, qui est celle du rêve, et donc celle de l'inconscient. Hein, c'est-à-dire que en entrant dans d'autres mondes, Alice rêve et entre en elle-même aussi. Hein. Donc, si vous voulez, ce voyage spatial est en fait un voyage intérieur. Sont donc interrogés par Carole d'une manière très très complexe, tout à la fois le statut linguistique du mot, du signifiant, l'identité de la fillette, sont mises en représentation des fantasmes purement enfantins comme le désir de voler, mais aussi des peurs archaïques beaucoup plus profondes comme la peur d'être dévorée par exemple, ou même plus largement la peur de la mort. Donc la spécificité de Carole est de penser l'autre monde comme un voyage intérieur et d'avoir su travailler sur des images oniriques tout à fait évocatrices, comme le lien que l'animal entretient avec le corps pulsionnel, par exemple, ou même d'avoir essayé de mettre en représentation plus largement l'impulsivité. Hein, je pense aux colères démesurée et terrifiante de la reine de cœur ou à celle de la duchesse. Et puis l'autre aspect qui me semble important, c'est qu'il parvient par la traversée du miroir, par cette image, à condenser de manière tout à fait complexe à la fois quelque chose qui est la réflexion sur soi, hein, dans tous les sens du terme, et en même temps de mettre en représentation l'inversion des mondes, hein, donc qui est un autre, si vous voulez, aspect de la fantaisie qui sera développé par d'autres auteurs, hein, qui le suivront. Alors, au tournant du XXe siècle, une transformation va s'opérer, puisque s'impose quand même progressivement une conception de la littérature de jeunesse qui tente de coller davantage à l'imaginaire enfantin. Hein, c'était déjà le cas de Lewis Carroll, mais c'est aussi donc le cas de James Matthew Barry. Avec son Peter Pan, hein, qui est publié en 1904. C'est-à-dire qu'à l'instar de Carole, il met en scène une enfance triomphante et insolente. Non, je n'ai pas Peter Pan, je crois pas.
J'anticipe au cas.
Merci. Qui laisse la part belle aussi à une certaine sauvagerie, hein, à une certaine cruauté. Pan, c'est Pan, hein, c'est aussi le dieu Pan, hein, donc il est lié par la mythologie, je dirais, à cet aspect-là de l'enfance. Et l'autre innovation importante est que l'autre monde se définit dans Peter Pan par rapport au temps et non par rapport à l'espace, puisque le Neverland, c'est textuellement en anglais le pays de jamais, c'est-à-dire un monde où le temps s'est arrêté. Le temps y est donc espace. Hein, donc là, on entre, si vous voulez, dans une dimension encore autre de la fantasy qui sera également donc exploitée par les auteurs qui suivront. Alors, la fantasy, là, si vous voulez, ce que je décrivais des auteurs qui appartenaient à un héritage romantique, hein, de la littérature, mais la fantasy repose, je dirais, sur des influences qui proviennent de la théologie chrétienne. Alors, le premier exemple, ce sont les sept chroniques de Narnia, hein, de Clive Staples Lewis. Donc, Lewis, lui, naît en 1898, il meurt en 1963. Hein, donc, on est dans une autre période. Alors, les sept chroniques de Narnia sont tout à fait exemplaires à cet égard, parce qu'elle propose, oui, en fait, c'était c'est l'image qu'on a vue tout à l'heure, hein, les The Magician's Nephew. On peut la remettre si vous voulez, parce que je n'en ai pas d'autres. Elle propose une opposition manichéenne tout à fait caractéristique du romanesque, il ne faut pas l'oublier, puisque Lewis élabore à la fois un monde simple et éternel, hein, où triomphe la bonté, la paix et la beauté. Le bien et le mal, ils sont clairement identifiables, aussi bien à travers le personnage de la sorcière, qui incarne le mal, que celui du lion Aslan, hein, qu'on voit ici, qui est plutôt donc une figure christique, puisque Aslan se sacrifiera pour sauver Edmund de son asservissement moral envers la sorcière, hein, dans Le Lion, la sorcière et l'armoire, publié en 1950, donc avant le premier tome chronologique de 1954. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a affaire à ce même type d'opposition, hein, très très manichéenne, dans Le Seigneur des Anneaux, donc publié en 1954. Le merveilleux y représente le bien, il est aussi, sous-tendu aussi par la tradition pré-chrétienne, tandis qu'un surnaturel inquiétant et terrifiant plonge l'univers du mal dans l'ombre et l'indicible. Alors, une autre référence littéraire est à cet égard tout à fait déterminante. C'est celle du Paradis perdu de John Milton, publiée en 1667. Alors là, j'ai une image. Puisque Milton conçoit dans ce poème un Satan qui se libère de toute influence divine.
Je crois que c'est ça. Hein.
Oui, c'est ça. Voilà, merci. Et qui, donc, exalte un imaginaire négatif. Donc là, on a une représentation du paradis perdu par William Blake. Hein. Il existe des créatures, nous dit Milton, qui sont au seuil du chaos. Et le problème de l'homme est de savoir si lui aussi, il est voué à la dissolution, à la nuit ou à la mort. Et on voit là, si vous voulez, tout le parti que Tolkien sera tiré d'une telle figure satanique, puisque il inventera, enfin il donnera naissance donc au personnage de Sauron. J'ai trouvé une image sur le net dans Le Seigneur des Anneaux, celui de Voldemort. Oui, il est peut-être un peu.
Non, c'est pas.
Il a 1000, c'est parce qu'il est trop.
Il est trop quoi ?
En fait, c'est trop gros. Non. Ah non, je vois, j'ai pas mis les notes. Donc là, c'est Sauron. Oui, non, mais c'est
non.
Oui, c'est ça. Tout le problème de ne pas avoir de lunettes. Voldemort, ensuite. Celui donc de Voldemort chez J.K. Rowling. Voilà. Et un dernier, c'est. Ou celui de Gangrène dans Abarat de Clive Barker. Alors, je ne sais pas si. Alors, ça doit être Gangrène, Angers, non ?
Non. Non, 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 je ne vois pas.
Ah, c'est Lord of Midnight. C'est Lord of Midnight, pardon. C'est elle.
Ok, ok, c'est bon.
Voilà. Donc,
voilà,
Lord of Midnight, le Seigneur de minuit, donc dessiné, peint par Clive Barker, qui illustre son texte dans sa série des d'Abarat. Alors. Évidemment, on l'a dit tout à l'heure, hein, le cas de Tolkien est tout à fait déterminant. D'abord parce que Tolkien est quand même un théoricien de la fantasy. Alors, ce qui est intéressant chez lui, c'est que, à la différence de Freud, qui finalement opposait l'imaginaire au rationalisme, l'imaginaire enfantin au rationalisme adulte, il n'oppose pas la fantasy à la raison. Il considère, dit-il, hein, il dit, la fantasy est une activité humaine naturelle. Ce qui signifie aussi que la fantasy est évidemment particulièrement adéquate, hein, aux compétences d'un jeune lecteur éminemment doué pour l'imaginaire romanesque. C'est moi qui le dis, c'est pas lui. Donc, si le lecteur, dit-il, éprouve une satisfaction, celle-ci ne relève pas uniquement du plaisir hallucinatoire produit par la vision. Elle provient plus largement, dit-il, d'un questionnement sur la vérité fictionnelle. Alors, je le cite, il dit « La nature singulière du plaisir intense suscité par la fantasy » il utilise le mot « fantasy », mais on peut le traduire par « enchantement » quand elle marche, hein, quand elle fonctionne, peut être expliquée par l'émergence soudaine de la qualité sous-jacente de la vérité. Ce n'est pas seulement une consolation contre la tristesse du monde, dit-il, mais une satisfaction et une réponse à la question « est-ce vrai ?». Donc, ce qui est intéressant chez Tolkien, c'est qu'il, si vous voulez, il conçoit la création de ces mondes imaginaires, et cette question-là, il la place au cœur d'une question sur la vérité. Est-ce vrai ? Et ces mondes inventés doivent donc être vrais. Ils sont vrais. Hein. Et il est évident qu'il y a là une espèce de paradoxe hein, entre la recherche d'une vérité fictionnelle et le fait que le lecteur ne soit pas obligé d'y croire, comme on le disait tout à l'heure. Il n'est pas, comme il n'est pas obligé d'y croire, le plaisir pris à cette activité fantasmatique est intense. Hein. C'est donc ce qui peut expliquer, si vous voulez, la satisfaction produite. Mais c'est vrai que Tolkien pose un paradoxe littéraire extrêmement intéressant. Alors, on le disait tout à l'heure, hein, donc avec Bilbo le Hobbit, il invente en 1937, pour la première fois, un monde, hein, ce qu'il nomme un monde secondaire, une sorte de lutin. Bilbo part en quête d'un trésor gardé par un dragon dans un monde imaginaire, en compagnie de nains, d'un magicien. Dragons, gobelins, trolls, anthropophages, monstres, arachnides, etc. en sont les acteurs principaux. Le caractère initiatique de l'errance et l'arrivée dans l'autre monde, hein, qu'il nomme « the land beyond », c'est-à-dire le monde de l'autre côté, insiste bien sur le fait qu'il s'agit d'une échappée merveilleuse. Hein. Donc, c'est vrai que là, si vous voulez, on est dans le cas dans l'exemple de monde inventé, créé, mais c'est tout de même de cette échappée merveilleuse que provient l'enchantement, si ce n'est le plaisir. Alors évidemment, bon, je ne vais pas m'attarder longuement de nouveau sur le Seigneur des Anneaux, mais il est évident que c'est une œuvre phare de la fantasy du XXe siècle. C'est cette œuvre qui ouvrira la voie au cycle à succès reposant sur l'invention de mondes autres. La série des Harry Potter, mais aussi La Croisée des Mondes de Philip Pullman, insisteront largement sur le déplacement spatial des héros. Ce qui est intéressant, c'est que si, avec Harry Potter, l'illusion de l'évasion hein, produite par ces déplacements et des désirs réalisés par la magie, ce qui est quand même une des fonctions de la magie. Enfin, on peut se dire que le plaisir suscité par la magie, c'est que les désirs ils sont réalisés, construit effectivement quelque chose comme une utopie de la consolation. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de consolation, de consolant, pardon, dans cette construction. Donc, comme le repère Tolkien. Hein, chez Pullman, en revanche, la démarche est complètement différente. C'est-à-dire que là, l'ouverture illimitée des possibles, grâce à l'invention de ces mondes, est plutôt comparable à l'ouverture de la fiction qui s'ouvre comme des fenêtres sur des mondes imaginaires. Je vais vous en donner un exemple. Hein, les héros imaginent dans la Tour des Anges d'autres scénarios possibles à la fiction. Je cite, un rien aurait suffi à les entraîner dans une autre direction. Peut-être que dans un autre monde, un autre Will n'avait pas vu la fenêtre dans Sunderland Avenue et avait à continuer de fuir dans les Midlands, épuisé et égaré, jusqu'à ce qu'on l'arrête. et dans un autre monde, un autre Pantalébone avait convaincu une autre Lyra de ne pas rester cachée dans le salon, et un autre Lord Asriel était mort empoisonné. Hein? Vous voyez, donc si vous voulez, là, la construction de mondes imaginaires, l'ouverture illimitée sur des possibles, est en même temps un questionnement sur la réalité fictionnelle. Hein? Donc ça ouvre, si vous voulez, sur un questionnement, je dirais, d'ordre littéraire. Et cet argument spéculatif est aussi repris par Jean-Michel Payet dans AR Chaos, je cite, « Et pourtant, c'est la réalité, une réalité qui va au-delà de ce que vous pouvez imaginer, c'est-à-dire, ces deux mondes ne sont pas les seuls. Il y en a d'autres, plus que vous ne pourrez jamais en visiter. » Donc ces romans, enfin ces récits-là, privilégient un imaginaire de la rêverie hein, par le déploiement des mondes possibles. Ce qui est intéressant, c'est que Carol avait déjà en fait une pensée, imaginé une telle mise en abîme de l'existence en suggérant dans La traversée du miroir qu'Alice pouvait être rêvée par le Roi Rouge. Et si le Roi Rouge cesse de rêver, qu'adviendra-t-il d'Alice hein? Donc, il y a, si vous voulez, une mise en abîme de la fiction dans la fiction, chez Carol par le rêve. Évidemment, pour en revenir à Tolkien très très rapidement, on voit alors à l'œuvre dans l'invention d'un monde autre la recherche d'une grande cohérence interne. Hein, c'est très important, c'est pour ça qu'il pose la question, est-ce vrai ? Oui, c'est vrai. Donc si c'est vrai, il faut que je construise un monde qui soit le plus cohérent possible. Donc d'une grande cohérence aussi bien par la langue, les coutumes, les vêtements, comme on l'a dit tout à l'heure, des traits sont empruntés à la littérature médiévale, notamment donc à travers les décors, les termes, les coutumes. Cet héritage médiéval influence hein, toujours aujourd'hui les œuvres qui sont inspirées par la sorcellerie. Je pense au journal d'une sorcière de Celia Lloris qui a été publié en 2002, ou bien aux romans qui se nourrissent aux sources vives de la démonologie, comme les histoires de dragons, Eragon 2004. Et puis, je pense aussi à L'alchimiste de Michael Scott, hein, où apparaissent des loups-garous et des vampires. Bon. Alors, l'autre aspect de la fantasy, c'est qu'elle cultive aussi volontiers ce que je nommerais une magie blanche, qui met en représentation le tremblement magique, cet enchantement, un enchantement, sans que le récit ne conduise à proprement parler vers des mondes autres. J'ai choisi comme exemple, bon alors c'est pas à proprement parler, si vous voulez on est dans une espèce d'entre-deux, c'est pas à proprement parler un roman de fantasy, mais j'ai choisi ce roman malgré tout volontairement, c'est le Jardin secret de Francis Burnett. Je veux bien alors que dont j'ai une image. Ça doit être Secret, et ben voilà, Secret Garden, c'est dessus. Qui fait donc la démonstration. Vous voyez qu'on est assez proche hein, d'une, comment dirais-je, d'une imagerie enfin, qui rappelle quand même Lewis Carroll. Enfin, hein, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du mur hein, on entre dans un jardin. Elle essaie de faire la démonstration du caractère proprement magique du jardin. Hein. Donc là, on rejoint, si vous voulez, l'intérêt des Britanniques pour une nature poétique, merveilleuse et envoûtante. C'est intéressant parce que c'est un peu c'est ce qu'avait défini Michel Foucault. Il le définissait comme une hétérotopie, c'est-à-dire un espace où nous sommes attirés hors de nous-mêmes. Et les enfants vont donc trouver dans ce jardin un lieu bénéfique, protégé, qui les transformera radicalement et qui sera rédempteur, tout comme la traversée aquatique de Tom avait été rédemptrice pour lui. Et dans le jardin, les enfants font le constat suivant, je cite, « Il y a de la magie là-dedans, de la bonne magie, tu sais, Marie, j'en suis certain. »« Moi aussi, j'en suis certaine, dit Marie. » Même si ce n'est pas vraiment de la magie des collines, nous pouvons faire comme si. Il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose. C'est de la magie, dit Marie, pas de la magie noire. C'est aussi blanc que de la neige. Hein ? Voilà, donc la fantaisie ici s'avère être plutôt un paysage intérieur, hein, intime, par lequel les enfants vont devenir ce qu'ils n'avaient jamais cessé d'être, grâce au jardin, grâce à la rencontre de ce monde autre, de cette hétérotopie qu'est le jardin. Tom et le jardin de minuit, hein, de Philippa Pierce, qui est publié en 1958, ne fera finalement que développer cet aspect en renforçant l'ancrage psychique et onirique d'une telle découverte, puisque le passé fera retour dans ce livre, dans le présent, y abolissant évidemment le temps, hein, et l'ordre des générations, au profit d'un enchantement pur, dont notamment une promenade en patin sur un fleuve glacé est peut-être, je dirais, une des plus belles expressions. Alors, ce qui est important dans cette magie blanche, c'est tout de même le plaisir aigu de retrouver quelque chose de l'enfance, hein, l'exploration des greniers, des jardins aventureux de l'enfance. On peut retrouver cette veine chez une romancière britannique qui est morte en 2010, Eva Ibbotson, hein, c'est peut-être celle qui s'inscrit le plus, si vous voulez, dans cette veine finalement britannique. Elle avait proposé avec Reine du Fleuve en 2006 une réécriture du Petit Lord Fauntleroy de Francis Burnett, mais par exemple avec Le secret du quai numéro 13, qui est publié en Grande-Bretagne en 1994, elle va renouer comme ça avec un panthéisme magique, idyllique, merveilleux, en inventant un pays des brumes où même les légumes ont quelque chose de tout à fait précieux et magique qui doit être préservé auquel on doit penser, hein, comme si c'était des êtres vivants. Hein. Voilà, donc toutes ces œuvres posent les fondements de la fantasy contemporaine. Je ne les ai pas toutes citées, bien évidemment. Elles vont engendrer des œuvres qui procèdent aussi bien de reprises qui sont explicites, hein, d'une intertextualité explicite, que des récits qui proposent plutôt des reprises thématiques ou structurelles. Les influences avouées jouent sur des références connues des lecteurs et dérivées des œuvres originales. Par exemple, le roman de Frank Bedore, Les guerres du miroir, hein, qui sont publiés en 2006, s'inspire de la traversée, explicitement, hein, de la traversée du miroir d'Alice, et se construit sur l'inversion des mondes imaginaires et réels, c'est-à-dire que le pays des merveilles, où règne la puissance de l'imaginaire, exerce un pouvoir tyrannique sur le monde réel. Et donc Alice, A-L-Y-2-S, doit traverser le miroir en sens inverse. Tel est aussi le parti pris de Fabrice Collin, hein, dans Cyberpan, publié en 2003, où l'autre monde, donc référence explicite évidemment à Peter Pan, l'autre monde a beau être un univers artificiel créé par Crochet pour imiter l'île de Peter, il est plus réel que la cité d'Harmonie où vit Windy, dont les habitants se réfugient dans des mondes virtuels. Ce qui est intéressant, c'est que dans ces deux cas, la mise en représentation des mondes réels et imaginaires a pour fonction, finalement, de réaffirmer la puissance de l'imaginaire sur le réel. Et Fabrice Collin s'insurge, hein, dans ce roman, notamment contre le refus de vieillir. La croyance en un ailleurs se double chez lui par le fait que l'idée de vivre peut être une grande aventure. Alors, les reprises ne sont pas toujours aussi élaborées, hein, puisqu'il suffit parfois de filer un ou plusieurs motifs présents dans l'œuvre originale pour construire le récit. C'est le cas d'un roman pas nécessairement très intéressant. J'ai une image. C'est le cas donc de Peter et le voleur d'ombre, publié en 2010, qui fait suite à Peter et la poussière d'étoiles. Donc, je vous remercie. De Dave Barry et Ridley Pearson, qui imaginent donc par exemple que Peter Pan doit affronter Ombra, un dévoreur d'ombre. On se rappelle qu'au tout début de Peter Pan, Peter oublie son ombre, hein, chez chez Windy et la famille. Merci. Et voilà, donc on reprend, voilà, on prend là un motif et puis on le file pour créer donc un nouveau récit, hein, inventer une nouvelle histoire. Alors parmi ces motifs, le thème de la mort est évidemment tout à fait central, notamment dans les romans pour adolescents. Il l'était, donc, on l'a vu tout à l'heure, hein, dans les classiques issus de la fantasy britannique, puisque dans les Water Babies, le passage dans un monde autre représentait la mort. Hein, donc le monde aquatique représentait la mort. Il était présent dans la traversée du miroir de Lewis Carroll. Et donc c'est en filant, je dirais, cette image que les romans apparentés donc au genre de la fantasy vont faire de la mort un espace d'exploration à la fois férique et psychique. Ces romans donc imaginent finalement la résolution des conflits qui sont liés à la disparition d'un proche en laissant espérer une possible résurrection. Donc c'est le cas de Jack Perdu et le royaume des ombres de Catherine Marsh qui associe les envols de Peter Pan au passage du héros dans le royaume des morts pour retrouver sa mère disparue. C'est le cas aussi du roman de Rick Riordan, le voleur de foudre, qui offre un exemple assez similaire, hein, sur fond mythologique, puisque Percy obtiendra d'Hadès qu'il rende la vie à sa mère. Dans une vie ailleurs, Gabriel Zévin imagine aussi un monde où les morts rajeunissent avant de redevenir les bébés qu'ils furent pour recommencer un nouveau cycle de vie. Et puis, il est évident que les aventures de Peter Pan illustrent tout à fait cet aspect-là, c'est-à-dire que d'un côté, on a une exploration intérieure qui va prendre pour Harry Potter la forme d'un travail de deuil lié à la mort de ses parents, hein, c'est-à-dire le parcours initiatique d'un enfant qui part à la découverte de ses origines. De son passé, des raisons qui ont présidé à la mort brutale de ses parents, de l'autre, à la compréhension un petit peu plus énigmatique de qui il est lui. Est-il ange ou démon? Quelle est cette voix qui parle en lui-même et qui l'habite, puisque Voldemort parle en lui, hein. Donc qui illustre le combat finalement moral de l'enfant contre une figure tout à fait mortifère, hein, celle de Voldemort. Les mondes à l'envers, inspirés par la traversée du miroir d'Alice, vont s'amuser plus généralement à annuler la différence entre l'animal et l'homme. On l'a dit tout à l'heure, c'était déjà présent avec Le vent dans les saules de Kenneth Graham, hein, cette fantaisie animalière. Mais c'est tout à fait repérable, par exemple dans les chroniques des temps obscurs de Michel Paver, où la frontière entre le monde animal et le monde humain est ténue. Dans Tyrion, princesse des glaces, publié en 2006, la princesse Tyrion va repousser les assauts de Bellerome à grand renfort de léopards des neiges, de vampires et de loups-garous. Et puis c'est tout à fait net chez Philippe Pullman, j'ai une photo éventuellement, qui imagine donc dans le royaume des morts des démons, hein, qui sont des animaux, qui sont des incarnations de l'âme propre à chaque être humain. C'est-à-dire que ça doit être assez.
Dites-moi, je suis désolée, En dessous de. Voilà. Ah d'accord, et là je ne vois pas. D'accord.
Voilà. Donc le personnage de Lyra est ici accompagné de son démon, qui est ce petit animal à ses pieds, hein, qui est un animal qui fait partie d'elle-même, hein, c'est un double d'elle-même, et qui se métamorphose. J'ai aussi souligné tout à l'heure que l'exploration pouvait avoir lieu dans un espace-temps, hein, dont Peter Pan avait été le premier exemple. Une telle thématique est largement exploitée. Je citerai pour l'exemple le roman de Jeannette Winterson, L'horloge du temps, qui va cultiver donc les spéculations logiques sur la temporalité. Le temps n'est pas linéaire, il est la somme de tous les possibles, une mise en réseau de potentialités. Comme Carole l'avait déjà imaginé dans les aventures d'Alice au pays des merveilles, le temps peut s'allonger ou se rétracter, et puis des bouffées de passé surgissent du présent, etc. Voilà, donc il y a une espèce de, comme ça, de jeu sur la temporalité qui n'est pas très éloigné de certains romans de science-fiction. Autre exemple, dans les aventures de Peter Shock, Linda Buckley-Archer imagine que Kate Dyer et Peter Shock sont, à la suite d'une expérience scientifique propulsée par inadvertance dans l'Angleterre de l'année 1763, s'en suivront donc des allers-retours entre les deux univers, qui sont donc des univers spatiaux temporels, hein, qui ne sont pas... le temps et l'espace se mélangent ici. Ce qui me semble intéressant, donc, c'est surtout de comprendre que les interactions entre le réel et l'imaginaire ont dans ces romans plusieurs fonctions. Hein, je terminerai là-dessus. Elles mettent, donc on l'a vu, la mort en représentation d'une manière complexe, rassurante et distanciée. Mais elles peuvent aussi proposer, on en a parlé brièvement tout à l'heure, une lecture satirique du monde réel, de notre société, par l'humour. Dans La Chambre des Secrets, Rowling, enfin, le narrateur, appréhende par exemple le monde des moldus à travers le point de vue des magiciens, hein, ce qui lui permet de porter un regard ironique, disons, sur la technologie. La technologie est si merveilleuse et si complexe que les magiciens ne peuvent finalement en comprendre les ressorts et le fonctionnement. Même humour chez Jean Mola, qui interroge les interactions entre univers virtuel et réalité dans l'attrape-monde. Je saute la citation, puisque le temps presse. Si la pluralité des mondes peut se décliner donc sous toutes ses formes, hein, au gré des constructions imaginaires imaginées par les auteurs, on peut effectivement avoir des jeux sur les livres, donc comme dans Cœur d'encre de Cornelia Funke ou comme dans La bibliothécaire de Gudule, sur les univers parallèles, comme chez Philippe Pullman ou Eric Lom, je pense au livre des étoiles, sur les rêves, hein, chez Catherine Webb, par exemple, avec La guerre des rêves, sur le jeu vidéo, les mondes virtuels, je pense à Jean Mollet et l'attrape-monde. Donc, si vous voulez, le cadre peut changer, domine surtout donc, un jeu sur le lien entre fiction, romanesque et imaginaire. Si bien que, je dirais, la fonction là, qu'on dit référentiel du romanesque, c'est-à-dire le fait que le romanesque renvoie à du réel, est mise en abîme, hein, dans la fiction. Et il en résulte donc un jeu assez subtil entre les degrés de réalité et de fictionnalité, et un brouillage finalement des frontières entre les mondes. Et puis ces interactions entre le réel et l'imaginaire consacrent également, on l'a vu, hein, la prééminence de l'imaginaire sur le réel, comme si notre capacité à rêver était menacée. Et c'est le sujet du roman de Nicolas Morgan qui s'appelle Un monde sans rêve, publié en 2004. Voilà. Donc finalement, je m'arrête là-dessus. Le merveilleux présent dans la fantaisie réaffirme en cela, de mon point de vue, ce que, je reprends une formule de Louis Aragon qui m'est chère, représente l'image clinique de la liberté humaine.
Merci beaucoup, Marie-Hélène Routisseau. Pour cette plongée dans les mondes intérieurs d'un lecteur et l'impact que peut avoir la fantaisie sur un lecteur et l'aspect presque métalitaire, hein, que vous trouvez dans les mises en abîme, justement, dont vous parlez. Est-ce qu'il y a des réactions ? Est-ce que vous souhaitez poser des questions, que ce soit sur les références citées par Marie-Hélène Routisseau, que ce soit sur ses propos ? Si vous souhaitez réagir, c'est le moment. Oui ?
Vous avez beaucoup parlé du voyage intérieur et surtout de l'exploration des fantasmes et des peurs enfantins, surtout chez les classiques britanniques. Je voulais savoir, dans la littérature contemporaine, davantage destinée aux adolescents, qu'est-ce qu'elles explorent justement des fantasmes adolescents et de la spécificité adolescente, de la construction de soi, également des rapports à l'autre sexe. On peut imaginer que les vampires, il y a toute une... ça inspire beaucoup.
Oui. Bon, je ne peux pas répondre comme ça d'un coup à cette question. Il me semble que la présence de la mort est quand même importante. Je pense au livre de Megrosoff, Si jamais, par exemple, qui est plus un roman fantastique, mais dans lequel la peur d'une menace mortifère, on retrouve cette idée, hein, comme chez Rowling, une menace, quelque chose, menace le héros. Alors du côté du sentimental, de la séduction, c'est vrai que bon, c'est assez intéressant de voir que chez Stephanie Meyer, il y a une espèce comme ça de mise en représentation finalement très érotique, en tout cas dans les premiers récits, dans le premier tome, d'une relation sexuelle qui ne peut a priori jamais avoir lieu, hein, puisque le rapport, la relation charnelle est impossible. Donc il y a une espèce comme ça de mise en suspens d'une impossible relation qui est à la fois très rassurante et très très érotique, hein, et qui est très envoûtante aussi. Voilà ce que m'inspire votre question là, dans l'immédiat. Bon, maintenant il y a d'autres romans qui imaginent. J'ai lu un roman qui s'appelait Gender Blender, qui imaginait qu'un garçon prenait la place d'une fille et réciproquement. Donc qui imagine, enfin qui fait finalement, qui met en représentation l'intersubjectivité sexuelle. C'est-à-dire comment, si j'étais une fille, qu'est-ce que je ressentirais? Si j'étais un garçon, qu'est-ce que je ressentirais? Pour donner des clés pour comprendre la différence des sexes, par exemple. Voilà.
Oui, bien sûr, je vous en prie.
Il y a deux romans auxquels je pense qui sont en fait les mêmes, en tout cas dans la structure. Ça fait pas partie de la trilogie de Gormenga de Mervyn Peake, mais ça s'appelle Boy in Darkness, publié chez Joël Osfeld, et qui va travailler la peur, fascination du sexe à travers une créature que le personnage va devoir combattre, qui est l'espèce de matérialisation du sexe érigé, qui est l'agneau aveugle dans ce très court roman. Et un livre d'Ursula Le Guin qui s'appelait L'Oreille de nulle part, ou quelque chose comme ça, malheureusement épuisé, chez Actes Sud, qui travaillait exactement le même sujet, un adolescent mal dans sa peau, partant d'aujourd'hui, qui a trouvé un paradis secret dans l'orée d'un bois, qui découvre qu'une jeune fille a aussi le même paradis secret, donc il va falloir passer l'égoïsme primate, se rencontrer, et une fois s'accepter, d'aller derrière, au centre du bois, découvrir un monde imaginaire et de se battre contre une créature qui est érigée mais sans substance, etc., blanchâtre, qui est la matérialisation du sexe. Donc il y a quand même un certain nombre de romans qui travaillent sur ce même motif, et je voulais terminer sur un dernier roman qui me paraît, enfin que je défends beaucoup, qui n'est pas dans le genre mais qui est à la lisière du genre, qui est Lady de Melvin Burgess, qui traite aussi de la bestialité qu'il y a en chacun de nous, etc. Voilà.
Oui, alors c'est vrai que Lady, je ne le citais pas parce que pour moi, ce n'est pas à proprement parler un roman de fantasy. C'est plutôt une fable. Qui met effectivement en représentation le pulsionnel, hein, puisque voilà, c'est une jeune fille qui se métamorphose en chienne. En chienne. Oui.
Et le texte de Mervyn Peake auquel vous faites allusion, il appartient véritablement au cycle de Gormenghast. D'ailleurs, quand Joël Le Sal l'a fait traduire dans le titre, il y a Titus. Parce que la première fois qu'il a été publié en Angleterre, il a été publié par la veuve de Mervyn Peake, qui indique que c'était un texte qui appartenait à la trilogie. C'est la seule piste qui permet d'accréditer le titre français, mais quand même, c'est une expérience que Titus aurait pu vivre. Alors, la situer à quel moment du cycle? Sans doute au cours de... Dans le deuxième volume du cycle, Titus s'enfuit de la citadelle, trouve un souterrain. C'est sans doute à ce moment-là qu'il peut vivre cette aventure, et plus tard, dans le dernier volume, de la trilogie, il vit une histoire d'amour qui se termine pas bien du tout.
Est-ce que le succès de l'Empire ne vient pas justement du fait que ça concrétise tous les thèmes que vous avez évoqués, c'est-à-dire la mort, l'amour, le temps, puisque les vampires ne vieillissent pas, et également le passage d'un monde à l'autre, puisqu'on passe du monde réel au monde plus ou moins fantastique des vampires. C'est un peu un digeste de tout ça, les vampires.
Oui.
Par ailleurs, dans les documents qu'on va vous envoyer par Internet, il y a deux documents complémentaires, dont une bibliographie d'ouvrages de référence, dans laquelle vous trouverez des ouvrages qui proposent des analyses thématiques, hein, dans certains chapitres. Du coup, ça peut aussi compléter les différentes réponses que vous avez.
Et pour continuer sur les lectures qui peuvent être adolescentes, mais pas forcément bipides, déjà, il faut préciser que bipides, c'est quand même un terme qu'on utilise qu'en France, et qui est complètement incohérent pour les auteurs anglophones, qui, eux, se disent écrire de l'urban fantasy, qui existe depuis longtemps. Il y a des auteurs qui écrivent sur les vampires et les loups-garous depuis bien avant Stéphanie Meyer, qui se trouve d'ailleurs un peu portée par elle, mais en même temps plombée par ce qu'elle propose. Et puis, il y a des auteurs qui proposent des lectures adolescentes qui ne sont pas forcément... inspiré du monde vampire. Je pense à Charlotte Bousquet avec La marque de la bête, qui est une visite du conte de Podane, avec la version plus allemande de Podane, c'est-à-dire que la princesse se retrouve perdue dans la forêt, quasi en danger d'être violée par son père.
Inceste, oui.
Et puis je pense aussi à une auteure jeunesse américaine qui s'appelle Christine Cachor, qui a écrit un roman qui s'appelle Rouge. Dans le premier roman, son héroïne est une héroïne qui est considérée qui a un don magique et qui est considérée comme la tueuse du roi, et qui donc doit se découvrir adolescente, doit trouver ce qu'elle est vraiment et doit aller au-delà de ce rôle qu'on lui impose, l'adulte lui impose. Et donc c'est aussi un roman sur le devenir de l'adolescente. Donc il n'y a pas que de la urban fantasy, biblique, vampire pur et dur, il y a plein d'autres choses à proposer.
Oui, je crois qu'il faut bien se rendre compte que le succès actuel de la bitlit est pas né de la littérature. C'est une série télévisée qui est à l'origine de ça, qui est Buffy contre les vampires, dont le succès a été absolument considérable, à tel point qu'on a créé une collection de romans assez rapidement, avec des auteurs qui sont pas des auteurs... novice, hein. Les deux premiers, c'est Christopher Golden, qui est un très bon auteur de romans d'horreur, et c'est Nancy Holder qui a obtenu 4 fois le Bram Stoker Award. Et alors c'est un peu triste de voir que Nancy Holder, sans doute pour des histoires de marché, donne maintenant à fond la caisse dans la bitlit, à 3 séries avec des vampires, des loups-garous. Ben, c'est comme ça.
D'autres réactions? Oui. Si vous voulez bien, parce que c'est enregistré, donc c'est pour ça que si vous parlez dans le micro, on entendra mieux.
Alors, c'est une question plus générale. J'ai été souvent confrontée lors de mes études à des professeurs de lettres qui prétendaient que la fantasy n'était pas de la littérature, car dans l'Encyclopédie des Lumières de Diderot et d'Alembert, Jodelet définit la littérature comme touchant forcément à l'homme, et que comme la fantasy ne touche pas forcément à l'homme, mais à des créatures surnaturelles, ce n'est donc pas de la littérature. Alors, qu'est-ce que vous répondriez à ce genre d'affirmation?
Bah, la meilleure réponse qu'on puisse lui donner, c'est que à ses profs de littérature, il faut leur redemander de lire Balzac, Charles Nodier, Gérard de Nerval, Théophile Gautier. Et bon, la réponse vient immédiatement, quoi. Et puis on pourrait allonger la liste à l'infini. Si le surnaturel n'est pas de la littérature, donc il faut brûler un certain nombre d'œuvres de grands auteurs.
Et je crois qu'il y a un décalage aussi des termes. On parle de réalisme magique, on change les termes quand on est en littérature générale, fantasy. Puis pour revenir à ce que vous disiez sur les questions de définition, on a presque l'impression qu'il y a une substitution de termes. Quand je vous entendais, finalement, on pourrait imaginer deux personnes dans une même bibliothèque ou librairie demandant du fantastique. L'une lui dirait « j'en ai pas, mais j'ai de la low fantasy », et l'autre lui dirait « j'ai pas de low fantasy, mais j'ai du fantastique ». Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de problème de définition aussi ? et qui fait que ce que vous dites, on pourrait l'appeler le réalisme magique, ce que vous appelez la littérature, en termes de littérature, et qu'on appellerait ici aujourd'hui fantasy. Donc, est-ce que c'est pas simplement une question de terme aussi ?
Oui, je crois que c'est pour ça que j'avais souhaité quand même restreindre, en ce qui me concerne, en tout cas limiter mon intervention. Je suis pas sûre que les livres de Stéphanie Meyer soient, de mon point de vue, des romans de fantasy, par exemple. J'ai exclu le fantastique, a priori, qui provoque de l'angoisse. Donc voilà. Donc c'est simplement important de s'entendre sur le sens qu'on donne à ce terme quand on en parle. C'est vrai que, de mon point de vue, c'est pas à proprement parler un genre littéraire. C'est si vous voulez plutôt une espèce de courant issu de diverses influences avec divers motifs qui interfonctionnent. C'est un ensemble quand même assez hétérogène et très polymorphe finalement.
D'autres réactions ?
Moi, je voudrais revenir sur un point de l'exposé de madame. Elle nous a montré à un moment un dessin illustrant Milton. Il faut savoir que la trilogie de Philippe Pullman, La croisée des chemins, il a écrit très sciemment pour lutter contre, en opposition au poème de Milton. Il l'a déclaré au cours d'interview et ça a eu des conséquences pour lui, puisque aux États-Unis, les fondamentalistes religieux ont mené une véritable campagne contre La croisée des chemins. Donc tout se tient. Il y a le fait que C.S. Lewis et Tolkien soient des catholiques.
On est dans une culture quand même chrétienne très très affirmée. C'est évident. Oui.
Et Paul Anderson, par exemple, prétend que les elfes chez Tolkien, ce sont pas les elfes de Faerie, que ce sont des anges ou des archanges.
On va justement s'arrêter là pour laisser notre ange rentrer. Je vous propose une toute petite pause de 5 minutes, le temps justement de laisser la place à Ange et Charlotte Volper. Et merci encore, Marie-Hélène Routissot et Jacques Baudou.